Après ce premier grand maréchal du palais qui nous a émus aux larmes, vraiment, merci, merci Marin. Et donc ce personnage qui se révèle avec ses différentes touches, qui nous permettent justement de retrouver à la fois la personnalité en creux de l'empereur auprès de cet homme à qui il avait tout confié. Je vous propose cette fois-ci, avant de laisser la parole à notre ami Pierre-Jean, qui va égayer cette fin de soirée, puisqu'on était un peu triste là sur cette fin de portrait, d'évoquer l'autre grand maréchal, donc Bertrand. C'est un personnage un peu étrange parce que Bertrand a été choisi aussi un peu par défaut. Et pourtant, quand on voit ce qu'il va faire jusqu'à la fin, et quand je dis jusqu'à la fin, et je vous propose d'évoquer même ce qu'on appelle le retour des cendres de l'empereur en 1840, c'est d'imaginer ce parcours assez exceptionnel également de Bertrand qui, d'une certaine manière, n'était pas destiné à devenir ce grand maréchal du palais qui doit donc, comme on l'a dit tout de suite, succéder à Duroc. Il est né à Châteauroux, ce qui n'est pas non plus fait pour le rapprocher ni de Napoléon ni de Duroc. Châteauroux, il est né surtout au château Raoul, qui donne le nom à la ville, en mars 1773. Et Bertrand ne croise finalement Bonaparte que tardivement. On a vu tout de suite pour Duroc, 1795. Bertrand doit attendre 3 ans de plus. On ne l'engage finalement que pour la campagne d'Égypte. Il n'est donc pas ni à Arcole, ni à Rivoli. Et il est engagé parce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire le génie. C'est un ingénieur de formation et sa spécialité, ce sont les pontons. Donc Bertrand, homme de génie, mais sans véritablement de mise en valeur. C'est un homme de l'ombre aussi, il travaille avec beaucoup de soin. Et en Égypte, eh bien, on a très peu besoin de lui, finalement. Puisque pour les pontons, pour le génie, on a besoin peut-être à certains moments, on va surtout en avoir besoin dans la campagne qui suit, qui est indubitablement liée à celle de l'Égypte, c'est bien entendu la campagne de Syrie. Marin nous en a parlé, la prise importante pour la Syrie, c'est Saint-Jean d'Acre. Et à Saint-Jean d'Acre, Napoléon va se casser les dents parce qu'il a face à lui deux personnages qui tiennent absolument à ce que Saint-Jean d'Acre reste inexpugnable. C'est tout d'abord l'amiral Sidney Smith, qui est un Anglais comme on n'en fait plus, et de l'autre, celui qui connaît tous les secrets de Bonaparte, et pour cause, qui s'appelle Filippo. Il a été un de ses condisciples à Brienne, il a eu donc la même formation, et lorsqu'il voit arriver les Français, lui qui est donc Filippo français, c'est exactement ce qui va se passer. Et Bertrand, eh bien, ne peut rien face à ce site de Saint-Jean d'Acre que vous connaissez toutes et tous, et donc qui va être finalement le tombeau des espoirs de Bonaparte, qui doit donc rentrer au Caire avec un Bertrand un peu penaud, n'ayant pas su véritablement ouvrir la carcasse de cette carapace qu'était Saint-Jean d'Acre. Pourtant, Bertrand sait que son heure va venir. Elle vient à Austerlitz. Elle vient surtout dans cette campagne terrible de 1805, dont on ne se souvient finalement que de ce très beau soleil de 2 décembre, mais Bertrand a fait des miracles. Non seulement pendant toute la campagne, il l'a fait surtout à Ulm, où toute la ville va se rendre aux Français, qui sont en infériorité numérique, et il le fait surtout pour les préparatifs d'Austerlitz. D'ailleurs, ce qui est intéressant chez Bertrand, c'est qu'il le fait à différentes reprises, ou les moments où on s'y attend le moins. Il le fait surtout en 1809, alors que Napoléon, qui est un homme des îles, ce n'est pas ici que je vais dire le contraire, né en Corse, première intervention militaire sur les îles au San Stefano de la Maddalena, la prise de l'île de Malte, le sacre, l'île de la Cité, la paix avec le tsar sur l'îlot finalement artificiel de Tilsit, et puis bien entendu, ici donc, à Wagram, la préparation de la bataille se fait dans l'île perdue au milieu du Danube, l'île de Lobo. Et là, l'heure de Bertrand est arrivée. C'est lui qui prépare tous les plans et qui fait en sorte que les armées cachées dans les sous-bois de Lobo puissent intervenir le plus rapidement possible lorsque les orages qui couvent le 5 juillet 1809 auront disparu. L'orage passe et Napoléon envoie ses hommes. Et là, c'est Bertrand qui a préparé les navires sur lesquels des ponts suspendus, provisoires, ont été lancés pour que la bataille de Wagram soit la victoire terrible et formidable du 6 juillet suivant. Bertrand est donc l'homme des moments impossibles. Aussi Napoléon pense à lui pour remplacer, pour ce qu'on va appeler les provinces illyriennes, un autre grand maréchal dont on aurait pu parler, un maréchal cette fois-ci grand par la taille, grand par l'image, petit ensuite par la fidélité, c'est le maréchal Marmont. Marmont était le premier gouverneur des provinces illyriennes, mais Napoléon ne l'aimait pas véritablement parce qu'il trouvait chez Marmont un peu de splendeur qui ne sied pas à un gouverneur des provinces illyriennes. D'ailleurs, Napoléon l'appelait Marmont Ier, ce qui vous laisse imaginer comment il le jugeait. Mais avec Bertrand, tout va changer. Parce que Bertrand ne vient pas uniquement qu'en gouverneur, il s'installe avec toute sa famille. Il a à ses côtés une femme un peu particulière, Elisabeth, qu'on appelle Fanny, née d'Ion, dans les îles, des îles que Joséphine connaît bien, et Fanny, qui est également l'une des cousines de l'impératrice, a bien sûr l'oreille attentive de l'épouse de Napoléon. Avec Bertrand, elle se considère véritablement comme la gouverneure femme. Et donc, elle va installer une cour avec beaucoup de rigueur, d'intérêt, et à Ljubljana aujourd'hui, Laibach à l'époque, mais également à Dubrovnik, dans toutes ces îles et dans toutes ces villes tout au long de la côte dalmate, Bertrand va devenir un homme formidable. D'ailleurs, pour vous en donner une preuve supplémentaire, en 1814, alors que les troupes de l'Empire sont en train de décliner, on apprend qu'un général Bertrand, qui est un homonyme, qui n'est pas lui, a été fait prisonnier. Tous les Illyriens, ce qu'on appelle aujourd'hui la Slovénie, une partie de la Serbie, et bien entendu la Croatie, se mobilisent, se cotisent pour envoyer de l'argent pour qu'on libère le général Bertrand. Mais ça n'était, comme je vous le disais, qu'un homonyme, et Bertrand, lui, à ce moment-là, est déjà nommé grand maréchal du palais. Il a un avantage, parce qu'il gouverne les provinces illyriennes, c'est qu'il ne participe pas en 1812 à la campagne de Russie, ce qui lui évite bien des déboires, de perdre la vie, ce qui est quand même une chose importante, et surtout de ne pas être marqué au fer rouge par ce drame terrible qu'est la retraite de Russie, où tous ceux qui en sont revenus n'auront plus du tout ni d'allant, ni d'enthousiasme pour faire les campagnes de 1813 et de 1814. Au moment de la mort, justement, de Duroc, en mai 1813, Bertrand est donc dépêché pour revenir auprès de Napoléon. Ce n'est pas à lui auquel on pense en premier pour devenir grand maréchal du palais. Et ça va te faire plaisir, c'est encore un Lorrain, tu le sais. C'est le général Drouot. Drouot, l'homme que Napoléon connaissait le mieux, artilleur, qui avait véritablement servi la grande armée et qui pouvait être un homme de confiance pour le grand maréchalat du palais. Et Marin vous l'a rappelé, c'est un exercice civil, donc pas du tout militaire. Mais en 1813 et surtout en 1814, on a besoin de Drouot à la grande armée. Donc le brave Drouot laisse la place et c'est Bertrand qui l'occupe. Donc je vous le disais, un casting un peu par défaut. Mais imaginez, lorsqu'il est nommé et le temps que les choses se fassent, nous sommes déjà en janvier 1814. Les troupes adverses, tous les coalisés, sont déjà sur le territoire français. Et quand je dis français, on pense toujours à la campagne de France qui va se passer autour de Napoléon dans l'est du pays. Mais souvenez-vous, les Britanniques ont déjà passé les Pyrénées. Jean-François Coulon-Desarts nous en a parlé hier soir. Avec ses campagnes d'Espagne et de Portugal, ils ont traversé donc les Pyrénées et à leur tête, un personnage pas très connu, un certain Wellington, je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. On n'a pas de nouvelles. En 1815, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'en parle pas. Et en 1814, au moment où il est nommé, Bertrand, imaginez quand même, on lui apporte sur un plateau un rôle extraordinaire de s'occuper de la cour de l'empereur, de diriger les Tuileries, de s'installer dans des palais somptueux. La campagne de France se termine à Fontainebleau. Napoléon abdique une première fois sans condition, évidemment en s'imaginant peut-être qu'un jour son fils pourrait arriver, le 4 avril avec une petite condition, mais elle sera vite mise de côté, le 6 avril donc sans condition, et ensuite ce sont les fameux adieux à la garde qui, vous le savez, se dérouleront 2 semaines après une tentative d'ailleurs désespérée de Napoléon pour perdre la vie. Il a tenté de se suicider le 12, donc dans cette chambre terrible qui va lui servir de mouroir. Bertrand n'a plus qu'un rôle à jouer, celui d'accompagner en exil Napoléon à l'île d'Elbe. Et là, Fanny, l'épouse du grand maréchal, est assez partante. D'une certaine manière, pour elle, c'est un moment assez heureux. Elle va enfin profiter de son mari, qu'elle ne voit plus du tout depuis ce moment où il a été nommé grand maréchal du palais. Donc elle l'accompagne, avec les enfants, les premiers enfants du ménage, et les 9 mois que passe Napoléon à l'île d'Elbe sont plutôt heureux. Calme, détendu, le travail du grand maréchal du palais est assez modeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez la différence entre les Tuileries, Saint-Cloud, Fontainebleau, et je ne vous parle même pas du Kremlin, vis-à-vis du palais des Mulini, qui ne tient finalement qu'en à peu près une vingtaine de salles, bien modestes, où ne sont égayées pour les soirées que les petites saillies verbales de Pauline et les moments un peu heureux que Napoléon retrouve auprès de sa mère, Laetitia. Tout se passe très bien, jusqu'au moment où l'empereur décide de rentrer en France. Et la seule personne qui soit au courant de cette affaire, ça n'est pas Bertrand, ça n'est pas Laetitia, ça n'est pas Pauline, c'est Drouot. Et là, Bertrand se dit, ben franchement, c'est vraiment qu'on m'a vraiment choisi par défaut. Drouot, on en avait besoin, il était aux armées, on me nomme à sa place, je dois faire le travail et je suis le dernier au courant. L'empereur lui dit, mais justement, je ne veux pas attrister votre sort. Vous êtes heureux en famille. Drouot n'a pas besoin de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on reprenne le pouvoir avec Cambronne. Cambronne n'a pas encore dit son mot, pas le temps. Donc, ils repartent. Je ne vous rappelle pas, évidemment, l'épopée des 100 jours. Ça se termine dramatiquement dans un endroit, je ne sais plus non plus d'ailleurs. Ça se commence par un W, enfin peu importe. Gergovie ne connaît pas, exactement. Donc, on se retrouve au deuxième exil. Et ce second exil débute, vous le savez, à l'île d'Aix. Bertrand est là. Il a un avantage, il a une épouse qui parle anglais, Fanny, puisqu'elle est descendante d'Irlandais et donc parle la langue de Shakespeare. Il se dit, mais si Bertrand connaît la langue de Shakespeare, peut-être pourrait-on négocier avec les Britanniques qui croisent au large de l'île d'Aix, donc de La Rochelle, du Fort Boyard, que tout le monde connaît maintenant pour les émissions de télévision. En effet, on envoie 2 personnages d'importance qui parlent effectivement cette langue, Bertrand qui la connaît bien, et surtout le fameux Lascaz, qui ensuite, puisqu'il avait été, il avait servi du côté de Londres, qui sera ensuite l'un des confidents et l'un des hommes forts des premiers mois à Sainte-Hélène, vous le savez, avec le fameux mémorial de Sainte-Hélène qui sera publié par la suite. Bertrand, donc, est choisi encore une fois un peu comme un comparse. Mais lorsqu'il apprend que Napoléon va être envoyé non pas aux États-Unis comme il l'avait envisagé dans un premier temps, mais à Sainte-Hélène, en Atlantique Sud, et qu'il le dit à son épouse Fanny, celle-ci manque de se jeter par-dessus bord du navire le Bellérophon pour mourir en disant « jamais à Sainte-Hélène », parce qu'elle, elle sait ce que c'est, que cette île balayée par les vents est terrible d'aspect. Comme son caractère à elle n'est pas véritablement aimé par les gens de l'entourage, certains disent qu'on la laisse sauter, au moins on en sera quitte. Mais Henri Gatien, en bon mari, c'est son prénom, hein, Henri Gatien Bertrand en bon mari, la retient in extremis et lui permet de rester à bord. L'expédition est assez longue, ça se passe pendant près de 2 mois et demi, et le 15 octobre 1815, alors que Napoléon s'apprête à monter sur le pont du navire pour lancer une phrase extraordinaire entre toutes, « Mes amis, ceci n'est pas un beau séjour, j'eus mieux fait de rester en Égypte, je serai à présent maître de tout l'Orient. » Eh bien, c'est Fanny Bertrand qui lui coupe l'herbe sous le pied en disant « Chers amis, je vous l'avais bien dit, cette île est chiée par le diable. » Effectivement, la postérité a retenu la phrase de Napoléon, mais imaginez au quotidien, il fallait se coltiner la belle Fanny. 6 ans, 1973 jours les attendent jusqu'à la mort de l'empereur. Bertrand, choisi parce que Fanny ne veut pas être auprès de Napoléon, qui lui fait une cour assidue depuis l'île d'Elbe. J'ai oublié de vous parler de ça aussi. Donc, il s'installe à Hötzgate, dans une maison un peu à l'écart. Et de cette manière, eh bien, Napoléon, qui va voir partir successivement Lascazes avec son fils Emmanuel, puis ensuite Gourgaud, puis ensuite la famille Balcombe, bref, même son médecin O'Meara irlandais qui était à ses côtés, ils partent tous les uns et les autres. Il ne voit plus autour de lui que Montholon, dont l'épouse vient d'ailleurs de le quitter, pour Napoléon quelque temps, mais repart ensuite en Europe. Il ne reste plus donc finalement que les Bertrand, qui ne font que des enfants, et où d'ailleurs Madame Bertrand a encore un bon mot au moment de la naissance du dernier. « Sire, je vous présente le premier Français qui soit entré sur cette île sans l'accord des Britanniques. » 1821. Le 5 mai, l'empereur s'éteint. Et tout le monde s'imagine que le grand maréchal du palais, qui a tant fait auprès de Napoléon, sera le légataire universel qui va enfin permettre au fils de Napoléon de recevoir tous les présents, tous les objets que lui destine son père. Ça n'est pas le cas. C'est Montholon qu'on choisit. Encore une fois, il est le comparse, le second, sur la liste. J'allais presque dire le poulidor d'or de l'Empire. Pourquoi ? Parce que Napoléon lui confie une mission beaucoup plus importante. L'homme de la légende. L'homme de la fidélité. Et c'est ce qu'il fait en 1840. Imaginez, mesdames et messieurs, 19 ans après cette terrible journée du 5 mai, Bertrand se dit « Je vais accomplir la mission ultime que nous avait confiée l'empereur, faire rentrer son corps en France. » La discussion était compliquée, vous imaginez. Nous sommes alors sous la monarchie de Juillet. Louis-Philippe fait un petit pas en avant en disant « Je vais confier cette mission à mon propre fils, le prince de Joinville, à qui on apprend l'ordre de départ en direction de Sainte-Hélène. » Ce pauvre prince de Joinville, lorsqu'on lui apprend qu'on doit envoyer en expédition deux navires, la favorite et surtout la belle poule, Joinville, qui n'a jamais eu une mission très importante, dit « Formidable, enfin je vais pouvoir faire un travail de croque-mort. » En attendant, Bertrand est de l'épopée. C'est lui qui mène la barque et c'est lui qui reprend les choses en main. Et là, il a pris enfin sa revanche. Le fameux Montholon, dont l'épouse, excusez l'expression, c'était celle qui était utilisée à l'époque, était la Pompadour avec son épouse, donc la Pompadour de Sainte-Hélène, celle qui servait d'encrier à la plume de l'empereur, je vous laisse imaginer. Eh bien, Montholon n'est pas de l'expédition. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de servir, après l'empereur qu'il avait choisi de servir jusqu'en 1821, il a pris le parti d'un futur empereur, futur Napoléon III, qui a fait des tentatives de coup d'État à deux reprises à Strasbourg et à Boulogne, et Montholon n'est pas de l'expédition du retour des cendres de 1840, il est en prison avec Louis-Napoléon au fort de Ham. Bertrand parade. Il est heureux, n'est-ce pas Bertrand ? Quand on porte un prénom comme celui-ci, formidable. Il est heureux. Il va enfin accomplir la mission qui lui était destinée. Être le premier alors qu'il a toujours été le second. Il a été le second après Duroc. Il est le second à tout moment. L'expédition est menée. On emmène avec lui Lascazes, le fils, parce que le père est un peu trop âgé. Il est né en 1768. Marchand, le fameux valet de chambre, le Mamelouk Ali, Archambault, Courceau, Novera, Pierron, tous ces hommes qu'il a eu sous sa responsabilité, et tous partent en direction de Sainte-Hélène. La mission est très simple. On doit quitter Toulon sans coup férir pour atteindre ensuite Cadix, Madère, Tenerife, les côtes brésiliennes à Bahia. Et Bertrand se dit, il y a une seule date qu'il faut accomplir absolument. Nous devons nous trouver devant le tombeau de l'empereur, le 15 octobre de cette année 1840. Et tout le monde se dit, mais pourquoi le 15 octobre 1840 ? Pourquoi le 15 octobre ? Parce que 25 ans plus tôt, l'arrivée de Napoléon à Sainte-Hélène s'était faite le 15 octobre. Et dans son esprit, il se dit, rappelons la phrase de l'empereur de ce moment où il avait dit « J'aurais mieux fait d'être en Égypte » pour oublier peut-être la phrase de son épouse Fanny, dont tout le monde se souvenait à l'époque. Les voyageurs arrivent. Ils s'installent devant le tombeau. les abords de la vallée du Géranium attendent le moment opportun. Ce 15 octobre 1840, à minuit et demi, il pleut comme jamais il n'a jamais plu à Sainte-Hélène. Il pleut, si, à Sainte-Hélène, quelques gouttes, oh, très peu de temps, 350 jours sur 365, c'est très peu. Mais, balayé par les vents, Longwood est un peu préservé. Et la vallée du Géranium a ce caractère très enjoué que Napoléon aimait tant. Il pleut véritablement de manière terrible. Et là, Bertrand se dit, mais combien de temps faudra-t-il pour ouvrir le tombeau de l'empereur? Parce qu'il se souvient que 19 ans auparavant, on avait mis près de 20 heures pour sceller à 4 reprises le tombeau qui était installé tout en bas de la vallée. Et on avait installé au-dessus des couches successives de béton. Pas du béton armé, rassurez-vous, mais tout de même. Il faut donc 12 hommes qui travaillent sans discontinuer de minuit et demi jusqu'à 7 heures du matin pour qu'on ouvre enfin les dalles successives, parce que à l'époque, on avait surtout peur que des voleurs, des pilleurs de tombes emportent Napoléon pour l'emmener on ne sait où. Donc, tout se fait en temps et en heure, et Bertrand a accompli sa mission. La pluie commence à s'arrêter. Et Bertrand se dit, il faut absolument l'envoyer par ailleurs. Il ne faut pas que Napoléon reste là. Il l'a écrit sur son testament. « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » On ouvre la tombe. L'abbé Coquereau fait les phrases d'usage que la religion l'oblige à faire. Tout le monde est là. Bertrand se dit, il faut absolument l'envoyer ailleurs. Pourquoi ? Ils ont visité quelque temps auparavant Longwood, qui n'est plus ce bâtiment auquel Napoléon avait donné tous ses attributs de palais impérial, avec ses jardins luxuriants. La ville même de Jamestown, qui était à proximité, avait fait en sorte que Longwood dégénère dans l'esprit de chacun, et on avait fait en sorte que la maison de l'empereur devienne une étable où paissent tranquillement moutons, vaches et quelques animaux à proximité. Injure suprême. Bertrand se dit, nous aurons notre revanche. Lorsque le tombeau est ouvert, le fils de Bertrand raconte, nos yeux sont fixés avec anxiété sur le caveau. La pierre est soulevée. Et non seulement nous apercevons le cercueil, parfaitement conservé, mais les têtes de vis qu'on distingue sur le couvercle sont brillantes et n'ont pas même été oxydées. On se rappelle alors que la tête de ces vis avait été recouverte d'une petite feuille en argent. Et cette circonstance explique ce qui d'abord avait surpris. Les trois dalles et la pierre qui fermait le caveau ont été rapportées en France par le prince de Joinville. Il n'était pas encore 10 heures. Monsieur l'abbé Coquereau s'approche, jette sur la tombe de l'eau bénite et récite ses prières. Le docteur Guillard, qui accompagnait cette expédition, descend ensuite dans le tombeau et, avec des préparations chimiques apportées de Paris, fait des immersions successives afin de prévenir l'effet qui pourrait résulter des exhalations, puisque le cercueil est ensuite retiré du caveau, transporté dans une tente dressée près de là, et dès la veille, on y avait apporté le sarcophage en ébène envoyé de Paris. Bertrand retient son attention. L'émotion est vive. Imaginez. On ouvre les cercueils successifs. Et là, Bertrand lui-même, alors que son fils écrivait, Bertrand prend la plume et écrit. Tous les yeux étaient fixés silencieusement sur le cercueil, impatients de savoir si le corps était bien conservé. Le docteur a enlevé le coussin du côté des pieds et a successivement découvert les pieds, le corps, la figure. « Vous savez, mesdames et messieurs, écrit Bertrand, j'ai vu en France, en Allemagne, en Égypte, un grand nombre de cadavres conservés plus ou moins bien, mais la peau était généralement noire collée sur les os. Bon appétit. C'était des squelettes. » Ici, c'était tout autre chose. La main, surtout, paraissait appartenir à une personne encore vivante. Deux ou trois fois, j'étais tenté de passer de l'autre côté du cercueil pour la porter à mes lèvres, mais il m'eût fallu déranger trop de monde. Tout le monde est stupéfait. Lorsqu'on découvre avec le voile le visage de l'empereur, il est intact. Bien sûr, cela ne va pas durer longtemps. Mais Bertrand se dit... J'ai failli peut-être une fois, j'ai oublié de descendre du navire parce qu'il avait trop plu pendant cette veillée, j'ai oublié de descendre le daguerréotype. Imaginez, nous aurions pu avoir une photographie de Napoléon ouvert dans son cercueil. Bertrand se dit, l'avenir est à nous. À 3 heures, le cortège se met en marche. Les quatre coins du drap mortuaire sont portés, à la fois par lui, Bertrand, mais également par le général Gourgaud qui accompagne l'expédition, par le baron de Lascaz et par Marchand. L'abbé Coquereau précède le char et on porte de nouveau l'ensemble cette fois-ci avec l'orchestre de la milice locale qui joue en tête pendant que l'humidité est en train de redescendre. On les transborde ensuite sur la belle poule et comme à l'aller, mais cette fois-ci sans passer par le Brésil, on tire tout droit en remontant l'Atlantique pour arriver ensuite à Cherbourg. Cherbourg le 30 novembre, passage à bord du vapeur Normandie, puis ensuite transbordement pour remonter toujours avec un vapeur, sinon c'eût été difficile, la Seine en direction de Paris. Le 15 décembre 1840, tout Paris est réuni. 2,5 millions de personnes se pressent sur le parcours du retour des cendres. Bertrand est épuisé. Il n'a plus aucune force. Et pourtant, il lui reste une chose à faire. Accompagner le cercueil qui doit redescendre les Champs-Élysées, passer devant la Concorde et arriver aux Invalides. La réaction du public est unanime en voyant passer Bertrand. Le Constitutionnel, qui est l'un des grands journaux de l'époque, écrit « Lorsqu'on a reconnu en tête du convoi funéraire le digne général Bertrand, remplissant jusqu'au bout sa consigne de dévouement et ramenant de l'exil à la tombe son maître et son ami, une émotion électrique a couru dans toute la foule. » Parmi cette foule, on reconnaît toujours la fille de Bertrand, Hortense, qui avait vécu à Sainte-Hélène, et bien sûr, celui qui a effectué auprès de son père tout ce voyage et qui racontera dans un livre émouvant, on ne peut plus, le petit Arthur. Reste, je vous le disais, mesdames et messieurs, une dernière action. Sous le dôme, appuyé au bras du général Excelmance, Bertrand, fatigué et gagné par l'émotion, va enfin faire la dernière mission. Il dépose le glaive d'Austerlitz qu'il a offert au roi le 6 juin précédent au moment de son départ et qu'il lui a confié. Et Louis-Philippe lui remet solennellement en ce jour de deuil en lui disant « Général, je vous charge de placer la glorieuse épée de l'empereur sur son cercueil. » C'est ce qu'il fait en la déposant délicatement près du bicorne du grand capitaine. Vous le voyez, mesdames et messieurs, la mission est accomplie. Le grand maréchal va y gagner son éternité et comme l'a rappelé Marin tout à l'heure, on comprend que 7 ans plus tard, lui qui s'éteindra en janvier 1844 à Châteauroux, eh bien on comprend que la décision soit prise le 5 mai, date anniversaire, le 5 mai 1847, on comprend qu'un tombeau à Duroc, mais aussi à Bertrand, lui revienne aux Invalides, situé à l'entrée de la cella de son maître, face au monument de l'autre grand maréchal, donc, Duroc. Bertrand avait enfin accompli la mission en tête, cette fois. Il était le premier. Le pèlerinage de Sainte-Hélène avait rendu l'évangéliste qu'il était, lui qui avait écrit ses textes du cahier, tel un nouveau saint, laïque celui-ci, et le grand maréchal, fidèle d'entre les fidèles, était devenu, cette fois-ci, immortel. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.